Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si la rivière est rouge, emprunte le chemin boueux.
Eh bien, il commence bien cet épisode.
Salut, c'est Lucille.
Hello, c'est Laetitia.
Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les personnes à vulve, comment ça se passe le sexe pendant les règles. Pendant des décennies, on a dit que les règles étaient sales, qu'elles apportaient le malheur et équivalaient à une malédiction. Qui n'a pas entendu qu'on ne pourrait jamais monter une mayonnaise si on a ses règles? Les règles, ça a donc été pendant longtemps une excuse toute trouvée pour ne pas faire de sexe avec son mari dans un monde où le consentement relevait de la science-fiction. Mais qui dit sexe pendant les règles dit aussi moments parfois très excitants. Des galères de lit taché et la découverte de l'imaginaire sexuel de son ou sa partenaire. Bref, c'est un vaste sujet sur lequel toutes les personnes à vulve ont en général au moins une histoire à raconter. Et toi Laetitia, c'est quoi ton histoire de règles et de sexe ?
Bah écoute, moi mon histoire de sexe et de règles, c'est que pendant très longtemps effectivement ça a été la bonne excuse. Que ce soit pendant un premier date en mode « Ah non, je peux pas monter chez toi ce soir, j'ai mes règles, mais bientôt ». Parce que j'avais peur de dire non, je couche pas le premier soir. Parce que sur des périodes où j'avais pas envie de coucher avec mon partenaire à cet instant T, c'était un peu comme la piscine au collège. Ah non monsieur, je peux pas aller à la piscine cette semaine, j'ai mes règles. Et bah là c'était pareil, mais avec mes partenaires. C'est fou comme c'est toxique en fait ce genre de culture de se dire qu'on a besoin d'avoir des excuses, que ce soit les règles, la migraine, un mal de dos. Même si bizarrement je trouve qu'il y a toujours des gens pour nous dire oui mais tu sais le sexe pendant les règles c'est bien parce que ça glisse mieux, le sexe ça enlève les migraines. C'est faux, c'est les orgasmes qui peuvent enlever certains types de migraines, mais encore faut-il arriver à avoir un orgasme quand on a la migraine.
D'avoir envie de se mettre dans un chantier pareil quand on
est. C'est ça. Mais du coup, ouais, pour moi, sexe et règles, ça a longtemps pas été compatible parce que j'ai été confrontée à beaucoup de partenaires masculins que ça dégoûtait purement et simplement. J'ai même une petite anecdote qui remonte à la nuit où j'ai perdu ma virginité, enfin, en tout cas, où j'ai eu mon premier rapport sexuel pénétratif avec un homme, où je me suis fait engueuler à la fin du rapport parce qu'il y avait du sang. Et que il m'avait dit, tu aurais pu me dire que tu avais tes règles, c'est dégueulasse.
Et il n'avait jamais entendu parler potentiellement des petits saignements qu'il peut y avoir la première fois.
Exactement. C'était une belle façon de commencer ma vie sexuelle avec les hommes. mais voilà, du coup, pour moi, sexe et règles, ça a jamais vraiment été un truc qui fonctionne parce que j'ai longtemps eu des règles très douloureuses. C'est pas une période où je me sens au top de ma forme. Je gagne beaucoup en sensibilité, du coup, j'ai pas nécessairement envie qu'on me touche. Donc voilà, je ne fais pas partie de ces gens qui aiment le sexe pendant les règles, ni même de ces gens qui sont particulièrement excités quand ils ont leurs règles. Moi, c'est tout le contraire. Vraiment, me touche pas, me regarde pas, ne m'écoute pas, laisse-moi râler sous la couette et apporte-moi un truc qui se mange. Globalement.
Alors moi, je fais partie des gens qui sont un peu plus excités quand il y a les règles, un petit peu avant aussi. Mais moi, mon histoire de règles, c'est plutôt une histoire d'absence de règles, parce que je suis polyamoureuse. Et ces dernières années, j'ai eu longtemps, deux partenaires dans ma vie. Mais qui dit deux partenaires dit temps partagé entre les partenaires. Et je supportais pas l'idée de gâcher du temps avec l'un ou l'autre de mes partenaires, avec mes règles. Donc pour moi, c'était quelque chose de vraiment une contrainte, quelque chose de pas pratique. C'était du sexe potentiellement en moins. Et j'étais obsédée par le fait que j'imposais mes règles aux gens. Donc, un jour, alors que je savais que j'allais avoir mes règles pour un week-end où j'étais avec quelqu'un que je ne voyais très peu, je me suis retrouvée sur un obscur site de pharmacie en ligne, basé en Angleterre, qui vendait des petites pilules pour arrêter les règles. Alors, à mon avis, un truc pas légal en France particulièrement.
Sans doute, parce que j'en ai jamais entendu parler.
Ah, tu trouves tout sur Internet.
À part du fait de prendre la pilule en continu pour pas avoir ses règles, effectivement, mais on y reviendra.
Mais là, moi, je prenais pas la pilule et donc je cherchais vraiment juste un médicament miracle qui arrêterait mes règles. Alors, ça marche. Même si j'ai pris potentiellement n'importe quoi, ça arrête bien les règles. Mais ça a aussi décalé mon cycle pendant au moins 3 mois. C'était vraiment n'importe quoi mon cycle à ce moment-là. Et puis, en fait, il y avait quelque chose de simple que j'aurais pu faire, c'est parler avec mes partenaires et voir si ça les dérangeait ou pas, ce que je n'ai pas fait. On vous a demandé sur les réseaux sociaux de nous parler de vos meilleures ou de vos pires histoires de règles. Pour ma part, j'ai eu la surprise de recevoir pas mal d'histoires où les règles étaient prises de façon plutôt positive. Contrairement à toi, Laetitia, il y a des hommes qui réagissent bien aux règles, voire qui ont un petit kink a priori. J'ai reçu le message suivant. Mon ex première nuit chez ses parents qui nous rejoignent le lendemain dans leur maison de campagne, qui précise par maison j'entends cottage de malade mental, drap de dingue, literie oufissime. On se fait un petit câlin en arrivant dans la chambre et après une belle partie de jambes en l'air, la meilleure entre nous d'ailleurs, je réalise que j'ai tué les draps parce que j'ai mes règles. Sauf que quand lui s'en rend compte, il n'est pas bouleversé du tout par les draps. Il a juste envie de recommencer parce qu'apparemment les règles ça l'excitait à mort.
Alors ça c'est original parce que moi j'ai vraiment beaucoup plus été confrontée à ce côté des mecs cis qui sont là en mode ah les règles c'est dégueulasse, c'est sale, ça sent mauvais.
Moi, je comprends pas ce truc de ça sent mauvais. Je me suis jamais dit que mes règles sentaient mauvais. Après des heures passées dans une serviette hygiénique, on sait que ça sent pas ouf.
Voilà, mais
directement du producteur au consommateur, ça sent pas mauvais particulièrement.
Non, mais voilà, il y a vraiment cette légende urbaine autour des règles. Et même dans les témoignages que j'ai pu recueillir sur le sujet, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit. J'ai eu notamment le témoignage d'une dame qui me racontait que son compagnon n'acceptait pas qu'elle dorme dans le même lit que lui. Pendant ses règles.
C'est encore un truc de malédiction, ça ?
Non, même pas. C'est juste qu'il trouve ça dégueulasse. Apparemment, l'odeur l'empêche de dormir, alors que parfois, elle avait ses règles, elle lui a pas dit, il s'en est pas rendu compte. Et le pire dans tout ça, c'est que déjà, avoir ses règles, c'est pas confortable, mais que c'était elle qui devait aller dormir sur le canapé.
Oh la pauvre.
Donc, heureusement, ces gens ont fini par se séparer, grand bien leur face. Mais il y avait un sondage qui avait été fait par la marque Intimina il y a quelques années, qui disait que plus d'une femme sur trois avait déjà été humiliée par un partenaire à cause de ses règles. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'avait scandalisée à l'époque, parce que c'est pas comme si on pouvait contrôler. Franchement, moi, si je pouvais appuyer sur un interrupteur et me dire « ce mois-ci, j'ai pas mes règles », je le ferais avec grand plaisir. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on gère pas, qui est hyper diabolisé. Donc ça me rassure presque de me dire qu'il y a des mecs que ça excite.
Mais écoute, j'en ai un deuxième si tu veux, si tu es motivée. Donc c'est deuxième nuit avec un mec. Le lendemain, il prend sa douche et je découvre comme le petit pousset des taches dans la chambre, sur le lit, le sol, dans le salon, sur le canapé. Ils se sont a priori beaucoup amusés. Sa réaction parfaite et nos deux têtes penchées sur la machine à laver pour déterminer la bonne température m'ont totalement détendue. J'ai gardé le mec et je lui ai offert un bon détachant spécial sang.
Bon truc à avoir.
Le détachant spécial sang.
Ouais, je pense que c'est un bon investissement pour toutes les personnes qui ont leurs règles.
T'imagines, tu fais ton petit pactage avant de passer la nuit chez quelqu'un et tu mets ton petit détachant spécial sang.
Bah, ça peut éviter des problèmes parce que c'est vrai que le sang, c'est difficile à faire partir. Sur des draps, ça va encore. Il suffit de les laver bien comme il faut.
À froid et tout.
Ouais. Le problème, c'est quand ça traverse le drap et que ça va toucher le matelas. Et là, pour le coup, ça peut... C'est pas que c'est un problème d'hygiène, mais c'est juste que bah il y a une grosse tache après sur le matelas. Quand t'es chez quelqu'un que tu connais pas forcément très bien, c'est chiant.
Et puis après, c'est un truc qui peut arriver même sans sexe. Hein. Il faut
bien sûr.
Je veux dire, globalement, les personnes à vue vous savent très bien. Tu peux tacher n'importe quoi quand t'as tes règles.
Ça peut débarquer n'importe quand. Même les personnes qui sont parfaitement bien réglées ne sont pas à l'abri d'avoir un petit dérèglement.
Et puis il suffit d'avoir un flux un petit peu. lourd pour se retrouver sans faire exprès, même en ayant le matériel pour attacher quand même. Moi, je sais que c'est une angoisse que j'ai énormément, c'est est-ce que je vais tâcher un truc, mes vêtements, le canapé, je m'en remettrai jamais, je pense. Et c'est vraiment un truc auquel je pense beaucoup. Autant dans le sexe, j'arrive à foutre une serviette sur le lit et c'est pas grave. Mais moi-même, toute seule, me dire que j'ai tâché des trucs, je le vis très très mal.
Et ben moi, je me suis débarrassée un petit peu de cette angoisse très récemment. Enfin, il y a quelques années, depuis que je suis avec ma compagne actuelle, en me disant que j'ai un draus qui, de toute façon, est déjà taché. Donc, quand j'ai mes règles qui arrivent, c'est celui-là qu'on met en se disant comme ça, taché pour taché, un peu plus, un peu moins. Mm-hmm. Ça fait un très joli motif à la longue. Et j'ai plus aucun complexe à l'idée de mettre une serviette sur le canapé quand j'ai mes règles et que, notamment en été, où je vis globalement à poil ou en petite culotte et où j'ai pas envie de mettre un jogging par-dessus ma culotte de règles, je mets une serviette sur le canapé, je dis à ma meuf que j'ai mes règles, elle est là en mode « Ok, voici du chocolat
». Pour moi, c'était un truc pas sexy, la serviette posée sur le... Pour moi, c'était vraiment un truc d'américain. C'était un truc d'espèce d'hygiénisme du sexe où il fallait poser la serviette pour éviter toutes les sécrétions, d'ailleurs pas que les règles. Mais globalement, ouais, je m'y suis faite. J'ai une serviette plutôt foncée ou plutôt rouge qui sert globalement à ça. Et ouais, c'est ça beau être pas sexy de préparer son petit nid avant, mais en vrai, c'est mieux que de mettre des taches partout et surtout de
ça fait une charge mentale en moins. Après
bien sûr. Du coup, tu vois, dans les souvenirs difficiles, j'en ai quand même reçu, évidemment, il y en a. La première semaine avec un nouveau mec, mes règles se déclenchent avec quelques heures d'avance. Il y a des gens qui savent exactement quand leurs règles vont tomber, j'en fais partie. Le mec s'en rend compte et me jette dehors en me traitant de meuf dégueulasse. Évidemment, je ne l'ai plus jamais revu.
Et tu as bien fait, j'ai envie de te dire, de ne plus jamais revoir cette personne.
Moi, je comprends pas ce truc de ces salles. Après, nous, on vit avec. Donc, fatalement, à un moment, on n'est pas dégoûté par nos propres règles tout le temps, sinon notre vie serait assez insupportable. Moi, je suis même pas dégoûtée quand il y a des morceaux ou des trucs comme ça. J'en ai un peu rien à faire. Je trouve même qu'il y a un côté un peu satisfaisant de se dire que ça part, tu vois. Mais je comprends pas ce truc de ces salles. Parce qu'il y a quand même plein d'autres trucs. En l'occurrence, là, on parle principalement d'hommes qui sont dégoûtés. Il y a plein d'autres trucs d'hygiène de base chez les hommes qui posent problème. Et bizarrement, on leur hurle pas dessus en lisant t'es dégueulasse, fiche le camp, tu vois. Il y a une tonne d'histoires de fellation où tu te dis ce truc était pas totalement propre, de semences qui a un goût atroce. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs comme ça qui nous font pas les insulter, quoi.
Non, je pense qu'il y a peut-être aussi une question d'éducation et de liberté de la parole. Moi, j'ai le cas avec mes deux paires de grands-parents, par exemple, où j'ai un de mes grands-pères qui gardait dans son portefeuille un emballage des serviettes hygiéniques que ma grand-mère utilisait pour pouvoir ne pas se tromper quand il allait faire les courses. C'était lui qui faisait les courses.
Au début de l'anecdote, je me suis dit c'est méga cringe et en fait c'est adorable.
Non, voilà, c'était juste en fait pour être sûr d'avoir la bonne référence et de pas se tromper quels étaient les bons produits. Et à côté de ça, j'ai mon autre grand-mère qui m'avait hurlé dessus une fois parce qu'elle avait trouvé une serviette hygiénique dans la poubelle de ma salle de bain.
Et en théorie, dans ta propre salle de bain.
En théorie, c'est là que ça va. Et en fait, elle m'avait engueulée en me disant « Il faut que tu t'en débarrasses mieux. T'as des frères, ils ont pas à voir ce genre de choses. » Et du coup, c'était vraiment parce qu'elle, elle avait eu cette éducation très sexiste des règles. C'est un problème de femme. Les hommes ne doivent pas être au courant.
Et du coup, faut que tu fasses ça, faut que t'ailles brûler dans le jardin.
Ça ou alors aller le mettre directement dans la poubelle de la cuisine sous une épluchure de peau de banane, tu vois.
Un peu caché.
Un peu caché. Et du coup, ça m'a donné un peu ce complexe de comment je me débarrassais de mes protections menstruelles. Je me rappelle d'avoir eu mes règles en partant en vacances avec une copine et de me rendre compte qu'il n'y avait pas de poubelle dans la salle de bain. Et du coup, j'avais en fait récupéré un petit sac plastique dans la cuisine pendant la nuit et j'avais gardé dans ma valise toutes mes protections pendant la semaine parce que je ne savais pas où les jeter et je les avais jetées en rentrant chez moi. Je te raconte pas l'odeur, c'était un enfer. Là, pour le coup, le sang qui stagnait depuis une semaine, c'était pas... Là, il y avait de l'odeur, je confirme. Et j'avais pas osé demander en fait à ses parents, que je connaissais pas très bien, comment je pouvais faire, ni même lui demander à elle... Parce qu'elle avait un rapport un peu particulier aux règles aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je venais dormir chez elle, elle mettait d'office une serviette dans le lit au cas où j'avais mes règles pour pas que je tâche.
D'accord. Donc c'est, alors que majoritairement, si la nature est bien faite, on n'a pas nos règles tout le temps.
Non.
On n'a majoritairement pas nos règles.
Figure-toi qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on peut décider quand on a nos règles.
Oh, ce serait génial.
Je me rappelle, j'en avais parlé sur Twitter, ça avait fait beaucoup rire les gens à l'époque, d'avoir eu une conversation lunaire avec le colocataire d'une amie on était en train de regarder Koh-Lanta. Et il y avait une des candidates qui se plaignait d'avoir ses règles pendant l'émission.
On y pense beaucoup, en vrai, quand les... Enfin, moi, je sais que j'y pense vraiment régulièrement, de me dire, mais comment elles font.
Et du coup, il avait fait, mais je comprends pas pourquoi elle a décidé d'avoir ses règles à ce moment-là. Donc moi, avec ma bonne petite fibre féministe, je me retourne en me disant, mais comment ça, décider ? Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Marc ? On ne décide pas d'avoir ses règles. Il fait, bah les femmes peuvent décider d'avoir leurs règles. Et puis, de toute façon, vous les avez que deux fois par an, donc...
Non, il vivait dans une réalité alternative où les femmes sont des sorcières.
C'est même pas qu'il vivait dans une réalité alternative, c'est qu'en fait, c'était un homme qui était agriculteur et qui, du coup, travaillait beaucoup avec les animaux. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de mammifères qui ont leurs règles que deux fois par an.
Tu veux dire qu'il nous comparait un peu à des vaches ?
Exactement.
D'accord.
Et du coup, j'ai commencé à lui expliquer. Il me disait que c'était faux, donc j'ai commencé à lui montrer les ressources sur Internet. Il me disait, mais non, mais moi, j'ai eu plein de copines, elles avaient jamais leurs règles. Je fais, est-ce que t'es sûre qu'elles te le disaient ? Parce que y a ça aussi, y a des questions de gens qui cachent leurs règles.
Et puis ça, si t'as des règles qui durent 4-5 jours, tu peux complètement, ça passe
oui,
quoi.
Sur un malentendu. J'avais des amis qui préféraient dire à leur partenaire qu'elles avaient la migraine pour pas faire de sexe, plutôt que de dire qu'elles avaient leurs règles. Mais notamment parce qu'elles avaient aussi eu droit à des propos très culpabilisants. Mmh. Je me souviens notamment d'une amie qui fêtait ses 1 an avec son copain au lycée. Et 1 an au lycée, c'est une longue relation. Tu vois, c'est vraiment, on est là en mode, ah, ils s'aiment depuis toujours, ils s'aimeront pour toujours. Mmh. Et en fait, son copain lui a hurlé dessus dans la cour du lycée parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait ses règles et que du coup, il ne pourrait pas baiser pour leur anniversaire. Et du coup, il était scandalisé.
Et après, on finit comme moi à acheter des médicaments dangereux sur Internet.
Ça, ou même tout simplement à prendre la pilule en continu. Il y a combien de personnes qui font ça pour ne pas avoir leurs règles ? Certes, pour une raison de confort, mais aussi pour leur partenaire.
C'est pour le confort de leur partenaire. C'est aussi ça, la question. C'est aussi pour dire, je ne t'impose pas mes règles, je les ai plutôt pas. Quoi.
Parce que ça, c'est une vraie question. Est-ce que toi, ça te dérange de faire l'amour quand tu as tes règles ?
Moi ? Absolument pas. Mais j'ai même des fantasmes liés aux règles que je n'impose pas à mes partenaires. Mais globalement, ouais, j'ai plein d'envies et en plus, j'ai plein d'idées, de trucs qu'on peut faire et tout. Moi, j'ai absolument, maintenant, à l'âge que j'ai aujourd'hui, hein, j'ai absolument aucun tabou par rapport à ça. Mais aussi parce que pour avoir couché avec des femmes un peu plus que quand j'avais la vingtaine, moi, j'ai aucun problème avec ça. Genre, ça me dégoûte pas. Et en ayant conscience que ça me dégoûtait pas, je me suis dit, mais qui est légitime pour dire ça me dégoûte vraiment, tu vois ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on accepte énormément de choses, des sécrétions des autres, de l'hygiène des autres. Et donc, j'estime que c'est pas sale en soi, à part si du coup, tu les as laissé mariner des plombes, mais on sait que c'est comme ça. Et du coup, et puis moi, j'aurais tendance à me nettoyer un peu plus, tu vois ? Genre, tu te nettoies un petit peu avant.
Tu prends une petite douche avant, une petite douche après, c'est rapide.
Ou même au lavabo, mais en faisant un peu gaffe, tu vois ? Et du coup, moi, j'imagine pas qu'on puisse me dire c'est sale, c'est dégoûtant. Ça serait un truc qui me ferait décider que ce partenaire n'est pas pour moi et je me casse juste.
Je pense que si j'avais ce genre de réflexion aussi, c'est plus quelque chose que j'accepterais aujourd'hui. J'accepte le fait, sans problème, qu'un partenaire me dise « je n'ai pas envie de te pénétrer parce que tu as tes règles, parce qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec le sang ». Ce que je peux comprendre. Par contre, je veux pas avoir de réflexion comme quoi c'est sale, comme quoi ça a une odeur. Enfin voilà, je veux dire.
Après, moi, je trouve pas que ce soit du sang sang. Tu vois, c'est pas comme quand tu te coupes le doigt et c'est l'hémorragie et c'est du sang très rouge. Ça a quand même une texture un peu différente. Ça a quand même une couleur un peu différente. Je peux comprendre les gens qui tournent de l'œil dès qu'ils voient du sang quelque part. Mais pour moi, le sang des règles, c'est pas tout à fait le même non plus. Limite, j'ai une sympathie pour lui, tu vois. Mais après, c'est pareil, quand ça fait des années que t'as tes règles, tu le dédramatises vachement, tu t'habitues. T'imagines l'enfer que c'est de vraiment vivre avec cette espèce d'angoisse, de dégoût de toi-même, une fois par mois.
Une fois par mois pendant 30 ans en moyenne.
Bien sûr. Donc, moi, ce qui me fait chier, c'est tous les inconvénients liés aux règles, c'est les douleurs. Donc, les douleurs physiques, les migraines, parce que du coup, ça peut effectivement déclencher des migraines, ça, c'est le cas chez moi. Mais en réalité, les règles en soi, non, ça ne me dégoûte pas du tout. Et donc, j'ai reçu un témoignage d'une personne qui a des fantasmes aussi liés aux règles, donc une femme, 6. J'ai toujours eu envie qu'on me lèche pendant les règles. Je sais que c'est un peu extrême, mais c'est un fantasme très fort chez moi. J'ai attendu d'être dans une relation un peu installée pour le demander, et je me suis pris un stop tout de suite. Pour lui, c'était inenvisageable et j'étais même un peu malade d'y avoir pensé. On est restés ensemble pendant 2 ans ensuite, mais je n'ai plus jamais osé parler de mes règles ensuite et je faisais tout pour les cacher.
Je peux comprendre que se prendre un stop comme ça, c'est pas agréable.
Ouais. Toi, tu serais capable de dire « j'ai envie que tu me lèches pendant les règles ».
Bah écoute, moi non, parce que j'aime pas spécialement qu'on me touche quand j'ai mes règles.
Oui.
J'ai juste eu une fois un cas où j'avais été voir un de mes amants il y a quelques années, où j'avais mes règles. Je l'avais prévenu à l'avance parce que c'était l'époque où je m'excusais encore un petit peu de ne pas pouvoir offrir du sexe, ou plus exactement offrir mon vagin. Parce que je lui disais, non mais voilà, je peux m'occuper de toi, sous-entendu, je peux te sucer, mais moi, je pourrais rien faire. Et je suis tombée sur un mec absolument extraordinaire qui m'avait dit « Non mais attends, c'est bon, c'est pas parce que t'as tes règles qu'on peut rien faire. » Et qui, au final, m'avait fait probablement l'un des meilleurs cunis de ma vie, alors que j'avais mes règles. Et j'étais là en mode « Ok. »
On lui dédicace cet épisode.
Voilà, donc c'est une possibilité, ok, intéressant. J'étais en fin de règles, donc ça allait, je tolérais un peu qu'on me touche. Mais c'était la première fois où j'étais vraiment confrontée à quelqu'un qui me dit « T'as tes règles ?» Pas de problème.
En faisant un truc aussi intime aussi, parce voilà, que déjà que c'est compliqué de trouver un homme qui a envie de faire un cunnilingus, avec les règles, c'est encore plus difficile, quoi.
Bah, c'est ça. Donc, merci à toi si tu t'écoutes. J'espère que tu te reconnaîtras dans cet épisode.
Toi, t'as reçu quoi comme témoignage?
Alors, écoute, moi, je me suis tournée vers des témoignages un petit peu différents. J'ai pas forcément eu envie que les gens me racontent des anecdotes sur le sexe, mais j'ai plutôt eu envie de donner la parole à des gens qu'on écoute trop peu. Sur le sujet des règles. C'est vrai que encore aujourd'hui, quand tu vois les publicités pour les produits d'hygiène menstruelle, c'est toujours des femmes, des femmes généralement jeunes, en mode oui, avec le nouveau tampon de telle marque, tu peux aller faire de l'équitation, du surf, alors que t'as juste envie de mourir au fond de ton lit. Et du coup, j'ai notamment eu envie d'aller poser la question à des mecs trans, parce que les hommes trans qui ne sont pas forcément sous hormones peuvent avoir leurs règles. D'ailleurs, même parfois avec les hormones, ils continuent à avoir leurs règles. Et c'est une parole qui est très peu entendue, en tout cas dans l'espace public. Donc du coup, j'ai pu en discuter avec Thibaut, qui nous écrit « Je suis une personne transmasculine de 33 ans. Quand j'avais mes règles, j'avais un très mauvais rapport avec cette période du mois, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, c'était long. Mes règles duraient en moyenne 12 jours. »
C'est long.
C'est très long. Un cycle normal, entre guillemets, c'est 5 jours. Donc vraiment 12 jours, ça commence à devenir très désagréable. C'était épuisant et coûteux sur le plan physique, émotionnel et financier, parce que contrairement à ce que disent plein de gens, les protections menstruelles, ça ne coûte pas 2 euros la boîte une fois par mois, mais ça peut coûter beaucoup plus cher.
Et ça coûte de plus en plus cher
aussi. Deuxièmement, elles étaient atrocement douloureuses durant au moins 6 jours. Moi, je douille le premier jour, donc franchement, je suis contente que ça ne dépasse pas les 24 heures. Ça allait jusqu'au vomissement de douleur. Et troisièmement, ça me ramenait constamment à mon genre assigné à la naissance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes transmasculines qui expliquent que le fait d'avoir leurs règles, ça les ramène à leur genre de naissance. C'est très bien imagé d'ailleurs dans la série Sex Education, qui fait ça très bien, encore une fois, où il y a un personnage non binaire, si je ne me trouve pas, mais qui utilise des pronoms principalement masculins, qui est en train de se faire masturber par sa compagne, enfin son amante dans les toilettes du lycée, et qui a ses règles, et c'est vraiment à ce moment-là qu'il fait une grosse crise de dysphorie. Donc voilà, je comprends que ça puisse justement ramener les personnes à quelque chose qui leur génère vraiment de la dysphorie, donc le fait de ne pas se sentir en accord avec leur corps. Thibaut nous dit « C'était un cercle vicieux parce que les règles me rendaient physiquement dysphorique, voilà encore une fois, et pour alléger ce poids, il aurait fallu que j'investisse dans des sous-vêtements spéciaux, comme des boxers de règles, mais l'idée d'en acheter et de les porter m'aurait ramené à ma condition de trans, et je n'étais pas à l'aise avec ça. » Heureusement, j'ai commencé mon traitement hormonal de substitution en 2020, donc il prend de la testostérone, d'abord à faible dosage, ce qui n'a pas eu d'influence réelle sur mes règles, puis un dosage plus important progressivement en 2022, puis 2023. En 2022, avec un dosage moyen, j'avais des règles partielles, et c'était très étrange, j'avais tous les symptômes, avec des douleurs notamment, mais sans écoulement de sang, ce qui doit être quand même très particulier à vivre. Ça a en partie résolu mon problème, mais sans avoir une vie normale 6 jours par mois à cause des vomissements. Ce n'est qu'avec mon dosage actuel, celui qui m'a été prescrit en 2023, que l'ensemble des symptômes ont disparu. Je peux enfin vivre à 100%. Par mon parcours, j'ai compris que l'écoulement sanguin est un symptôme parmi d'autres des règles, et ce n'était pas celui qui me posait le plus de problèmes. Aussi, quand une femme trans ou personne transféminine me dit qu'elle a des périodes de règles et qu'elle est poussée au silence, ça me met furieusement en colère, parce que le rapport à son corps durant cette période est propre à chacun, à chaque personne, et loin d'être universel. C'est un sujet qui est très intéressant parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de débats de femmes trans qui disent qu'elles ont leurs règles. Et généralement, on leur répond « Tu te vides pas de ton sang pendant 5 jours par mois. Ce ne sont pas des règles. » Moi, je suis en couple avec une femme trans et du coup, j'en suis témoin chaque mois. Effectivement, elle ne perd pas de sang. Elle n'a pas besoin de protection menstruelle, mais elle a les douleurs du même type que celles que je ressens. Elle a les mêmes impacts sur son moral avec les sautes d'humeur. Et en fait, c'est vrai qu'on oublie beaucoup que le terme menstruel, étymologiquement parlant, ça veut dire un cycle qui se répète tous les mois. Mmh. Et que du coup, bah, qu'on saigne ou pas, ça reste quand même des règles.
Bien sûr, puis il y a des femmes qui saignent très peu, enfin des femmes cis, qui ont des règles qui durent 2 jours, mais qui ne veulent pas dire que les douleurs s'arrêtent au bout de 2 jours. En fait, il y a tellement de cas de figure différents et quasiment presque de façon unique. Moi, je sais que quand on parle des règles avec des femmes cis, on n'a jamais les mêmes cas de figure, en l'occurrence. Donc, essayer de plaquer comme ça des conventions de « il faut saigner 5 jours, une fois par mois », quand on voit que les gens ont des cycles très différents d'une femme à l'autre et des symptômes très différents aussi d'une femme à l'autre, je trouve que c'est quand même minimiser encore une fois tout ce qui sortirait de cette espèce de norme comme ça médicale, quoi.
Et bah justement, pour aller avec tout ça, moi je suis allée discuter avec 2 personnes qui n'ont pas leurs règles. La première, c'est Nathalie, 64 ans, qui écrit « Ça fait 8 ans que je n'ai plus mes règles parce que je suis ménopausée. Et même si ça s'accompagne de toutes sortes de dérèglements et de trucs désagréables d'un point de vue hormonal notamment, je suis très contente de ne plus avoir à subir ça tous les mois. Pour moi, c'est une simplicité en termes de logistique et surtout une question de confort. Ce qui est un point de vue que je comprends tout à fait. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où je prenais la pilule en continu pour pas avoir mes règles, bah, le fait de me dire « Ah bah ce mois-ci, j'ai pas besoin d'acheter des tampons, j'ai pas besoin de programmer si je vais dormir chez des copines, si je pars en vacances, si je vais à la piscine, si je vais à la plage. » C'était un confort mental, en fait, vraiment, qui m'enlevait une charge. Je sais pas si ça a été le cas pour toi, si t'as déjà eu des expériences de ce genre.
Alors évidemment, hein, quand tu dois aller à la plage, quand c'est en plein dans les vacances d'été, c'est une totale galère quand tu te retrouves à dormir chez tes beaux-parents et effectivement que tu ne sais pas quoi faire de tes protections hygiéniques ou même de tes culottes de règles. Moi, j'utilise des culottes de règles depuis des années. Quand tu te retrouves avec tes culottes sales qui s'accumulent parce que tu ne peux pas les laver chez des gens, c'est extrêmement désagréable. Mais moi, je trouve que c'est quand même des événements à la marge. Je fais partie des gens pour qui les règles, c'est pas forcément extrêmement facile, mais ça rythme un peu mon année. C'est quelque chose qui, à défaut de me faire me sentir bien, est totalement femme, ce qui est pour moi, ne veut rien dire, mais globalement, je suis extrêmement à l'aise avec ça. Et j'ai eu une mère qui, toute sa vie, a bataillé pour ne pas avoir ses règles, parce que pour elle, c'était synonyme de tellement de douleur et tellement de désagrément que, du coup, mon expérience, c'est que j'ai été élevée par une femme qui ne supportait pas l'idée de ses règles. Et donc, j'ai essayé de déconstruire ça chez moi et de le prendre beaucoup mieux, aussi parce que j'ai des enfants qui vont être confrontés à la problématique des règles. Pour moi, c'était important de représenter quelque chose de cool, de léger par rapport aux règles, de ça arrive, c'est comme ça, et on va faire tout pour que les symptômes désagréables ne soient pas aussi forts, mais globalement, il va falloir apprendre à vivre avec, parce que, encore une fois, en faire quelque chose d'hyper douloureux, d'hyper honteux, c'est trop lourd dans une vie, sur tout le temps qu'on va avoir ces règles. Donc moi, je fais partie des gens qui essayent de le vivre au mieux, en mettant de toutes les chances de mon côté pour le vivre au mieux, en fait. Et je pense que ça me fera bizarre de plus les avoir, parce que je me suis tellement habituée et à essayer de transformer ça et mettre de l'énergie mentale et physique pour que ça se passe bien, que je pense que le jour où ça arrivera plus, je serai là presque, qu'est-ce que je fais ?
Alors j'ai 2 questions par rapport à ça. La première, c'est tu as eu des enfants, donc ça veut dire qu'il y a eu des longues périodes en théorie où du coup tu n'as pas eu tes règles. Comment tu t'es sentie par rapport à ça ?
Alors, bah, y a d'autres bouleversements hormonaux qui se passent quand t'es enceinte. Et du coup, malgré tout, j'avais à gérer des espèces de pics de libido, par exemple. Ou alors tu as des pertes aussi vaginales qui sont différentes. Il y a des périodes où tu peux en avoir plein. Du coup, il y a quand même un truc de focalisation sur le corps très, très forte. Donc oui, il y a un moment où quand tes règles reviennent, en plus, c'est souvent l'hémorragie quelques temps après avoir accouché, ça prend un temps de revenir, mais quand ça revient, c'est souvent, t'es là genre, quelle galère, vraiment, c'est horrible. Et puis en plus, t'es pas dans ce mood-là, parce que du coup, tu viens d'accoucher, c'est lié aussi à des douleurs d'accouchement, si ça s'est mal passé, ou si globalement, musculairement et au niveau des os, c'est quand même désagréable. Donc c'est vraiment pas quelque chose de, ce qu'on appelle le retour de couche, est rarement pris comme quelque chose de positif, mais moi, j'ai vraiment vécu mes grossesses en essayant de me concentrer sur les bouleversements de mon corps. Et donc, malgré tout, j'y prenais quand même énormément de... Ça me prenait de l'énergie et de la place mentale. Donc, j'ai pas eu mes règles pendant 8 mois, 9 mois, mais j'étais quand même focus sur mes pertes vaginales, sur mes bouleversements au niveau de la libido. Et il y en a eu plein.
Très super. Je ne savais pas du tout comment... Comment répondre à ça? Mais du coup, je vais en venir à ma deuxième réaction. Tu disais que parfois, le fait d'avoir ces règles, ça peut nous ramener à notre condition de femme, entre guillemets, ou de personne à vulve. Et ça tombe très bien parce que j'ai un autre témoignage sur le sujet, celui de Stéphanie, 27 ans, qui me dit « Moi, les règles, c'est un truc que je n'ai jamais connu. J'ai une maladie auto-immune qui fait que je n'ai jamais eu mes règles. Et du coup, je me suis toujours demandé ce que ça fait. » J'ai eu un peu de mal à m'identifier à mes amis, notamment parce que je ne connaîtrais probablement jamais ça. Il paraît que j'ai de la chance, mais c'est vrai qu'elle, du coup, elle a l'impression de ne pas avoir vécu ce rite de passage. Et c'est vrai que moi, je me rappelle de l'époque où j'avais 14-15 ans, où avec mes copines, on avait vraiment ce truc de se dire « ça y est, j'ai eu mes règles, ça y est, je suis une femme ».
Et puis tu faisais la liste de celles qui les avaient eues en premier, tu voulais pas être la dernière ? C'était hyper important, c'était vraiment un rite de passage.
Donc voilà, je comprends aussi que les personnes qui n'ont pas leurs règles, alors qu'elles devraient les avoir, ça peut... non pas que les règles aient un impact sur la féminité de qui que ce soit, mais qu'on puisse avoir l'impression peut-être de passer à côté de quelque chose, surtout quand c'est lié à un problème médical. Moi, j'ai jamais connu le fait d'avoir une maladie auto-immune qui faisait que je n'avais pas eu mes règles. Mais je fais partie de ces personnes qui, après avoir eu le Covid, je n'ai pas eu mes règles pendant 6 mois. Et ensuite, quand elles sont revenues, elles étaient de façon très aléatoire, alors que j'étais réglée comme un coucou suisse depuis mes 15 ans. Elles étaient beaucoup plus douloureuses. Donc vraiment, pour moi, c'était devenu une souffrance un petit peu à ce moment-là. Alors que ça avait vraiment... pas été le cas avant.
Et puis, il y a des femmes pour qui avoir ses règles, c'est super important. Les femmes pour qui prendre la pilule en continu, c'est une libération et c'est quelque chose qui permet de s'enlever un poids. On entend parfois des femmes dire « mais pourquoi tout le monde ne prendrait pas la pilule en continu pour s'enlever ça ?» Et en réalité, il y a vraiment des femmes qui le disent pour leur santé mentale, elles ont besoin d'avoir leurs règles parce que c'est quelque chose qui rythme vraiment leur vie. Moi, j'en suis pas à ce stade-là, mais je le comprends tout à fait aussi, que ça peut être quelque chose, à défaut d'être constitutif de ta féminité, en tout cas quelque chose qui permet de te caler, tu sais que toutes les 3 semaines il se passe ça, et t'as ce sentiment de cycle de te vider de quelque chose pour te remplir de nouveau de quelque chose. Il y a vraiment un facteur psychologique très très fort, et il y a des femmes, quand elles n'ont pas leurs règles, qui le vivent extrêmement mal au niveau psychologique.
Je comprends tout à fait, parce que moi je suis dans une période où je suis particulièrement attentive de mes règles. J'en ai beaucoup parlé dans des épisodes précédents sur les réseaux sociaux, donc c'est pas un secret. Je suis en train de faire un parcours de PMA, et du coup là je suis dans la période où je dois aller faire des examens à des moments très particuliers de mon cycle. Forcément, comme je suis stressée, mon cycle est complètement décalé. Mais du coup, voilà, le rapport aux règles, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les personnes seules ou en couple qui veulent fonder une famille, ou qui ne veulent pas d'ailleurs, parce que mine de rien, c'est généralement quand on n'a pas nos règles qu'on se dit « il faudrait peut-être que je fasse un petit test de grossesse ». Quitte à parfois sombrer dans une parano, parce que moi, même après une période où je n'avais pas fait l'amour depuis 6 mois, je me suis dit, putain, j'ai pas mes règles là, quelques jours de retard, est-ce que je ferais pas un test de grossesse ? Tellement c'est inscrit dans notre esprit que si on n'a pas nos règles, c'est qu'il y a un problème.
Après, il y a probablement, enfin, ça peut être le signe d'un problème médical, quel qu'il soit, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est le test de grossesse. Et je connais pas beaucoup de femmes, même des femmes qui n'ont pas eu de relation régulière, par exemple, qui ne sont jamais retrouvées dans la situation de devoir aller acheter un test de grossesse en pharmacie, qui est toujours un moment où, à part quand tu veux vraiment concevoir et que c'est quelque chose d'assez positif, qui est quand même un moment assez particulier, parce que peut-être, moi je trouve que probablement dans la majorité des cas, tu veux une réponse négative en fait.
Tu veux une réponse négative et tu te retrouves parfois confronté à des personnes en face de toi qui vont te poser un peu des questions très invasives. Moi, j'avais eu le cas il y a quelques années. J'avais été acheter un test de grossesse parce que j'avais un doute. Et je me suis retrouvée face à une pharmacienne qui m'avait dit « Mais vous êtes sûre d'en vouloir qu'un seul ? Parce que si vous êtes en train d'essayer de concevoir, ça vous coûtera moins cher si vous prenez notre promotion actuelle avec le pack. » Et je fais « Non, juste un seul. » Elle me fait « Ah, ok, je comprends. C'est pour une inquiétude. » Et vraiment, j'ai senti un jugement dans sa voix qui m'a rappelé le jugement que je pouvais avoir quand j'avais eu besoin de prendre la pilule du lendemain.
Complètement.
D'ailleurs, depuis quelques années maintenant, on peut trouver des tests de grossesse en libre-service dans les supermarchés. On n'a plus besoin d'aller à la pharmacie pour les acheter. On peut même les acheter en ligne. Et ça, pour moi, je sais que ça a été un soulagement de me dire que j'ai plus besoin d'être confrontée à une personne qui va me donner potentiellement un avis que je ne veux pas savoir. Et je pense que ça peut être bien pratique pour toutes sortes de personnes.
Et puis, c'est pas que la faute de la pharmacienne, ça peut être aussi les gens qui sont derrière toi. T'as pas envie que 3-4 personnes sachent que peut-être t'as eu du sexe sans capote ou que. En plus, les gens supposent toujours que c'est un peu de ta faute, que t'as mal fait les choses ou que t'as fait n'importe quoi parce que t'étais trop bourré ou n'importe quelle autre raison. Et donc, le fait qu'on puisse les acheter sans forcément se confronter à un humain, très bonne chose.
Bah, comme pour les préservatifs, on avait déjà eu la discussion là-dessus. Tout ce qui concerne la santé intime et sexuelle, je pense que c'est très bien qu'on en fasse des choses en libre service. Concernant les règles, il y a eu beaucoup de débats sur le fait de mettre des protections menstruelles dans les écoles, dans les toilettes publiques. Des gens qui disaient « Oui, mais c'est pas à la collectivité de payer pour ça, c'est pas à nos impôts de payer pour ça. » Les gens vont faire n'importe quoi avec, très honnêtement.
Et nous, on n'en fait pas des cocottes en papier.
On n'en fait pas des cocottes en papier. À côté de ça, j'ai eu d'autres discours, notamment j'avais été mener une enquête chez les agents de sécurité de supermarché. Mmh. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, il y a un accord tacite entre nous. Si on voit qu'une personne vole des protections hygiéniques, on ne dira rien.
D'accord.
Parce que, en fait, quand t'as besoin, t'as besoin. Il y a plein de personnes à travers le monde qui sont obligées d'utiliser des choses pas forcément hygiénique pour le coup, pour se protéger. Dans les témoignages que j'avais reçus sur un sujet, j'avais des personnes qui me racontaient qu'elles se découpaient des éponges pour la vaisselle.
D'accord.
Pour les utiliser comme des tampons.
Ou comme des éponges menstruelles,
voilà, mais
du coup, c'est pas fait pour, quoi.
Sauf que c'est pas fait pour, mais elle me disait, bah ouais, mais le problème, c'est que pour une mycose, c'est remboursé par la Sécu, ou pour une infection, c'est remboursé par la Sécu. Les tampons, c'est pas remboursé par la Sécu.
Oui, et puis c'est un budget. Malgré tout, ça pèse quand même dans le panier moyen des personnes à vulve complètement, quoi. Moi, je sais que dans les endroits qui proposent un petit panier avec le minimum de protection hygiénique dans les toilettes, je me dis toujours c'est un bon endroit, je vais revenir. Il y a un truc positif aussi de ça. C'est-à-dire que je pense que j'en ai jamais eu besoin parce que j'utilise donc plus de protection hygiénique, j'utilise des culottes de règles et parce que j'ai la chance d'être réglée suffisamment régulièrement pour que je n'ai pas ce problème. Mais à chaque fois, je me dis c'est bien pour des jeunes femmes qui se connaissent pas encore bien, c'est bien de toute façon si t'es stressée que ça se décale, voilà. Et à chaque fois d'ailleurs, on se rend compte qu'elles sont bien fournies, c'est-à-dire que je pense qu'ils en mettent régulièrement, mais je pense aussi qu'en réalité, oui, les femmes font pas n'importe quoi. Et si quelqu'un se sert dedans parce qu'elle a pas les moyens d'en acheter en supermarché, bah tant mieux presque.
C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire quand il y a les collectes de nourriture, notamment pour la banque alimentaire, ce genre de choses, de toujours essayer de fournir des protections menstruelles.
Ouais,
parce que c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc, pensez-y, il y a plein d'associations qui font des collectes par rapport à ça, que ce soit à destination des personnes dans la rue. Parce qu'il y a plein de gens qui, quand on parle du prix des protections menstruelles, disent « Oui, mais voilà, vous achetez une cup et c'est un investissement plus ou moins à vie. » Déjà, c'est faux. Mais il y a plein de situations où c'est juste pas possible.
Enfin, il faut pouvoir se laver les mains.
Voilà, il faut pouvoir se laver les mains, il faut pouvoir désinfecter sa cup. Donc, pour toutes les personnes qui sont précaires, qui sont sans domicile, c'est des choses qui sont très compliquées. Il y a plein de personnes qui aussi ont du mal avec la vue du sang, des personnes qui ont du mal avec l'idée de s'insérer quelque chose. Moi, je sais que la première fois que j'ai essayé de me mettre une cup, ça a été un délire. J'étais là en mode, mais comment ça va rentrer? Comment ça marche? Il y a une vidéo qu'on vous mettra en lien de cet article que j'ai trouvé très intéressante. J'ai plus le nom de la performeuse qui a fait ça. Si, c'est Lina Bembe qui a fait des tutoriels qui sont du coup disponibles sur Pornhub sur comment mettre une cup. Et en fait, elle a été obligée de les mettre sur Pornhub parce que c'est explicite. Mais au moins, elle te montre vraiment comment on fait.
D'accord.
Et ça me rend dingue de se dire qu'on est obligé d'aller sur des sites porno pour trouver ça, alors que c'est quelque chose qui est presque d'utilité publique.
Et puis qui n'est pas évident pour du jeune public, par exemple, de venir d'aller chercher ça ici, et puis d'après de se retrouver peut-être confronté à des vignettes ou à des vidéos qu'ils ne veulent pas trop voir. Moi, j'ai une histoire aussi, c'est vrai, de première fois. Mon premier tampon, ça a été un délire aussi. J'étais assez jeune et je me disais que le tampon, c'était un peu le truc de la maturité, que c'était les vraies femmes qui portaient des tampons. Et en l'occurrence, je me le suis coincé, ce tampon, parce que j'ai eu le malheur de lire la petite notice sur le syndrome du choc toxique à l'intérieur dans la boîte. Et ça m'a tellement angoissée, l'idée de peut-être perdre mes jambes à cause du tampon, que j'étais hyper contractée et je n'arrivais pas à le faire sortir. Et du coup, pour l'anecdote, après, je me suis rendu compte, j'ai regardé partout, j'ai regardé sur Internet. Et en fait, la réponse à ça, c'était il faut se déstresser, évidemment. Et je me suis retrouvée à me mettre un album de Trio. Parce que pour moi, dans
Alors
ma tête.
Si, je m'y attendais vraiment.
C'est comme le proverbe du début d'épisode, je ne m'y attendais pas.
Bah écoute, je me suis dit, c'est quoi le truc le plus détendu que je connaisse? Et je me suis dit, bah de la musique de Fonce D, ça va passer, tu vois. Et je me suis retrouvée à chanter en boucle l'hymne de nos campagnes en essayant de retirer mon tampon. Et au bout de la 3e ou 4e fois, ça a marché. Donc c'est mon petit conseil au cas où. Ça marche peut-être avec les cups aussi.
Incroyable.
Chanter Trio en boucle. Moi, j'ai fait la liste des conseils pour le sexe pendant les règles.
C'est exactement ce que j'allais te demander, toi qui pratiques le sexe pendant les règles.
Pas assez voilà. À mon goût.
Éclaire-moi sur comment on fait.
Alors, en fait, je pense que c'est important d'écouter son corps parce qu'il y a des moments dans les règles où on a un plus gros flux, par exemple. Donc, peut-être taper, à moins qu'on ait un kink énorme sur la vue du sang, qu'on veut qu'il y en ait beaucoup, taper en début de règle ou en fin de règle pour éviter qu'il y ait trop d'hémorragie, c'est pas une mauvaise idée. Et puis, ne pas se contraindre à des postures qui sont douloureuses au moment des règles. Ça peut être dans le bas du dos, par exemple, ça peut être au niveau du ventre. Et donc, aller chercher, même si c'est agréable d'habitude, se dire que pendant les règles, on adapte ses positions sexuelles. Protéger les draps et la literie, évidemment. Évidemment, encore une fois, si vous, votre délire, c'est d'avoir un matelas plein de taches de sang, parce que c'est un peu votre médaille d'honneur de ce truc-là, pourquoi pas. Mais donc, avoir une serviette pour qui est rouge ou foncée, pour éviter d'avoir une serviette pleine de taches, pourquoi pas.
Ou juste utiliser une alaise qui se met sous les, sous les draps. Ça marche pour le squirt aussi, d'ailleurs.
Et c'est ce que j'allais dire, ça marche pour les femmes fontaines. Et puis aussi, avoir un bon détachant chez soi. Mais il y a énormément de femmes qui connaissent et qui ont ce qu'il faut. Mais si c'est le partenaire qui se retrouve à nettoyer les draps, bien lui dire de nettoyer à froid. Tester les éponges de règles. Tu vois, tu parlais des éponges qui ne sont pas prévues pour. Mais si on veut faire de la sexualité pendant les règles et pas avoir le problème du sang, on peut complètement acheter sur Internet des éponges de règles qui sont faites pour. Alors, il y en a qui sont naturelles, des éponges naturelles que tu découpes, effectivement, à la taille que tu veux. Et puis, il y a aussi des petites éponges qui sont prévues avec une petite forme et avec un petit trou pour aller les chercher à l'intérieur.
Mais justement, je me rappelle que tu nous as raconté une petite anecdote dans un épisode précédent.
Eh bien, encore une fois, je me suis coincé un truc à l'intérieur. Et je me suis coincé une éponge de règles après le sexe. Je voulais aller la chercher pour qu'elle reste pas longtemps à l'intérieur de moi, parce que ça me stressait un peu. C'était une éponge rose fluo que j'avais achetée sur un site américain. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas le truc le plus naturel, on va pas le laisser trop longtemps à l'intérieur. Et mes doigts étaient trop courts pour aller chercher le petit trou pour aller la choper. Et donc du coup, j'ai demandé à mon partenaire, alors que c'était le début de notre relation, d'aller repêcher cette éponge à l'intérieur de moi. Je conseille pas. Enfin, c'est une activité pour créer du lien, mais j'étais vraiment
surtout
très stressée.
Ça développe la confiance. C'est un peu du team building.
Exactement.
Final.
Bah, quand tu commences à dire va mettre tes mains dans mon sang de règle dans une éponge, c'est quand même. Mais globalement, ouais, je pense qu'il faut surtout acheter du matériel qui est fait pour. Et donc, potentiellement, un peu comme une cup à une petite queue pour aller la chercher, aller chercher des éponges de règle qui sont prévues pour, avec bien le trou pour aller chercher le doigt et pouvoir agripper. Et puis, bah, peut-être potentiellement, acheter peut-être plus naturel que moi. Mais j'avais acheté un paquet de 5 et j'ai dû en utiliser 2. Donc, ça m'a pas convaincue totalement. Mais c'est utilisé par les actrices porno, par exemple. Donc, elles sont de bons conseils. Comme ta vidéo, donc pourquoi pas. Faire du sexe sous la douche, quand on n'a pas envie que ce soit que les draps prennent complètement. Faire le sexe sous la douche, on a toujours des bonnes excuses pour le faire, c'est sympa.
Oui.
C'est un peu acrobatique, c'est parfois pas toujours confortable, mais si on veut à tout prix faire une pénétration, pourquoi pas. Et faire le cuni sous la douche, c'est pas mal non plus. Avoir de quoi essuyer son sang près de soi. Moi, de toute façon, moi je suis team sopalin à côté du lit.
La petite boîte de mouchoirs.
Aussi. On sait jamais, parce que du coup, avec les autres sécrétions, avec les sécrétions vaginales, en l'occurrence de l'excitation, le sang peut se retrouver à être beaucoup fluidifié et on peut vite se retrouver à en avoir partout. Donc c'est vrai qu'à un moment, l'ambiance American Psycho, c'est Ça peut être un délire, encore une fois, mais c'est un peu spécial. Quand ton partenaire se retrouve à avoir du sang, du torse au genou. Non, mais je parle d'expérience. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose pour s'essuyer, parce que du coup, même le temps d'aller dans la salle de bain, t'as pas envie de goûter.
Dans tous les cas, avoir une boîte de mouchoirs à proximité quand on fait du sexe, c'est toujours bon. Ne serait-ce que pour les personnes qui n'utilisent pas de préservatif et qui ne veulent pas devoir faire la petite marche de la honte où tu serres les cuisses et tu te dandines jusqu'à la salle de bain pour aller utiliser du papier toilette.
Moi, je cache un petit peu ma culotte de règle, je la mets sous l'oreiller. Comme ça, du coup, juste après le sexe, je peux quand même vite enfiler ma culotte de règle.
Smart.
Exactement. Je parle d'expérience encore une fois. Non, mais parce que du coup, tu te dis, moi, j'ai peur de couler aussi par terre, de laisser un peu des marques partout. C'est pas une grande peur, mais je me dis, c'est quand même plus cool d'avoir de quoi se remettre un truc juste après. Je vais pas avoir l'idée de m'insérer un tampon juste après le sexe, mais
Tampon de sous mon oreiller.
L'oreiller magique, tu sors plein de trucs.
C'est l'oreiller de Mary Poppins.
J'ai un autre conseil, ne pas hésiter à associer au sexe des gestes qui nous font du bien. Parce que du coup, comme on a souvent des petites douleurs dorsales, des petites douleurs de ventre, rajouter des petits massages. Essayer d'avoir des partenaires qui se soucient un peu de ces problématiques. Avoir la petite bouillotte qui passe au micro-ondes et puis être un peu dans ce mood-là avant le sexe. On peut faire un sexe qui est aussi peut-être... Alors, encore une fois, les personnes qui veulent un sexe bien violent, bien sanguinolent, grand bien leur face et c'est très cool, mais on peut aussi vouloir un sexe plus cool, plus cocooning pendant ces périodes-là, et je pense qu'on peut justement aller réfléchir à des massages sur les zones qui font mal et qui font pas moins mal quand on fait du sexe d'ailleurs, donc on les oublie pas particulièrement, et puis dédramatiser, je pense que c'est important de peut-être faire des blagues parce qu'on sait qu'on va avoir du sang sur soi. Moi, j'ai aucun mal à avoir du sang sur moi, mais c'est vrai que quand je vois des partenaires qui en ont, je me dis toujours « Ah, c'est un peu de ma faute quand même ». Et du coup, on sait que potentiellement, il y a des trucs qui vont être tachés. Encore une fois, l'accepter et voilà, parler à son partenaire, faire des blagues, dire avec quoi t'es OK, avec quoi t'es pas OK. Si t'es un petit peu couvert de sang, est-ce que tu vas complètement faire une crise d'angoisse ou est-ce que ça va passer ? Je pense qu'on sent aussi si les gens sont un peu à l'aise avec ça. Les exemples qu'on a eus avec ces gens qui n'avaient jamais parlé avant mais qui ont découvert sur le coup que leur partenaire était hyper cool avec ça, c'est une très bonne surprise et c'est chouette. Mais moi, je crois que ça vaut le coup d'avoir une petite conversation avant. Mes règles vont arriver un jour. Quelle sera ta réaction ?
D'un point de vue purement pratico-pratique, petit rappel qu'on peut aussi faire du sexe non pénétratif
bien sûr
pendant les règles, hein, parce que même si la personne porte un tampon ou une cup, elle peut toujours avoir un clitoris.
C'est ce que j'allais dire le cuni.
Voilà, le cuni ou même juste le fait de stimuler le clitoris. Si vous avez pas envie d'y mettre les doigts, il y a plein de sextoys qui font ça très bien.
Aussi.
J'aurais
peur de mettre des taches encore plus partout, parce que la vibration avec le sens, je vois le truc un peu gicler dans tous les sens, mais...
Écoute,
pourquoi pas.
Ça se teste. Y a une question qui revient beaucoup sur le sexe pendant les règles, sur le fait que ça peut propager plus facilement les IST.
Oui.
Est-ce que c'est une légende urbaine ? Est-ce qu'il y a un vrai risque ? La réponse à cette question, c'est que c'est pas parce que... si jamais vous êtes une personne à pénis et une personne à vulve qui font du sexe pénétratif ensemble pendant les règles, le préservatif est conseillé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne peut pas tomber enceinte pendant les règles.
Bien sûr.
C'est faux. C'est faux, on peut tout à fait tomber enceinte pendant les règles. Ensuite, pour la question des IST, le sang peut transférer toutes sortes de choses. Il y a plein de choses qui sont adaptées à ce niveau-là, notamment les digues dentaires pour faire des cunis.
Qu'on conseille d'ailleurs de manière générale.
De manière générale. Il y a même des espèces de petites culottes en latex qui sont spécialement conçues pour faire des cunis pendant les règles. J'avais découvert ça totalement par hasard sur un communiqué de presse que j'avais reçu. Je vais vous retrouver la marque pour vous mettre ça en légende. Et j'étais là en mode, oh ben en plus, c'est un peu kinky, tu vois, la petite culotte en latex.
Mais oui.
Qui te fait oublier que t'as tes règles et qui te fait te sentir quand même un petit peu sexy.
Et puis pour les gens qui ne veulent pas faire de cunis pendant les règles aussi, pour plein de raisons, pour le goût, pour le visuel, ça permet de faire ça beaucoup plus proprement. L'épisode s'est ouvert sur une phrase en forme de faux proverbe chinois. Il n'est pas du tout chinois, d'ailleurs, ce proverbe. Vraiment, c'est un truc très franco-français. « Si la rivière est rouge, emprunte le chemin boueux », donc qui est une incitation à la sodomie pendant les règles. Déjà, globalement, vous n'êtes obligé à rien. Et puis, pour plein de femmes, ça ne va pas être possible de faire de la sodomie, puisque à la fois souvent en début de règle, mais c'est pas tout le temps, ça peut être tout pendant toutes les règles. Il peut y avoir des problèmes de transit liés aux contractions, en l'occurrence du corps, pour l'élimination. Et donc, du coup, vous n'êtes encore moins obligé de faire de la sodomie. Ça, c'est vraiment presque très misogyne de dire il y a un trou qu'on ne peut pas utiliser, on va utiliser les autres. Donc, ne vous sentez pas obligé. Et ce proverbe.
C'était encore une bonne excuse pour pousser les femmes à la sodomie.
Bien sûr.
Comme toutes les légendes urbaines sur le sperme pour nous pousser à la fellation et au fait d'avaler la semence des partenaires.
On nous pousse à beaucoup de choses.
Ce sont des injonctions qui sont sexistes. On douille suffisamment quand on a nos règles pour ne pas s'imposer ce genre de choses en plus.
À moins qu'on en ait envie, encore une fois.
Évidemment.
En conclusion, je vais vous dire que le sexe pendant les règles, eh ben, c'est pas sale. Qu'on aime ça ou pas, de toute façon, c'est vraiment absolument pas une excuse pour traiter les gens de dégueulasses ou pour leur dire qu'elles sont sales. Et pour beaucoup de personnes, en fait, c'est même quelque chose qui peut être très bon. Donc, le plus important, c'est de se connaître soi-même et de aussi savoir quelles sont les limites par rapport à ça. Ça peut être les limites du partenaire, mais ça peut être les limites qu'on se donne soi-même. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à essayer et puis surtout, trouvez des partenaires qui sont prêts à vous suivre dans l'aventure.
Mais écoute, je pense que c'est une très belle façon de conclure cet épisode.
Merci Laetitia.
Merci.
Laetitia et Lucille présentent Le Sexe, c'est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours et enregistré au studio Waked. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on vous partagera sur ces mêmes réseaux sociaux toutes nos petites références pour augmenter votre culture sur cette question du sexe pendant les règles.
Et on est à l'écoute de toutes les questions que vous pourriez avoir en la matière, les remarques, vos
les
partages
anecdotes,
d'expériences.
Exactement. Et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.